Do I feel happy in life?
Est-ce que je suis heureuse dans ma vie?
Let's see.
Voyons voir.
Let's say I hope I'm finding happiness.
Je pense que je recherche
right?
le bonheur.
Well, for me,
si je parviens à faire quelque chose de bien dans mon travail, alors je me rapproche du bonheur. Et je peux dire la même chose de ma vie. Ça n'arrive qu'à certains moments, je pense. Parfois lorsque je travaille et que je suis capable de très bien jouer une scène de façon vraie. Alors je me sens la plus heureuse. Je trouve que c'est stimulant de continuer à étudier et à travailler. Mais je ne suis jamais heureuse au sens général. Si on veut dire que je suis quelque chose en général, alors il faut dire que je suis plutôt misérable.
L'humeur vagabonde sur France Inter.
C'est une voix haut perchée de petite fille hésitante, emprisonnée dans un corps voluptueux de femme fantasme. En 1960, à Hollywood, sur le tournage de Let's Make Love, qui sortira en France sous le titre Le Milliardaire, Marilyn Monroe se confie à Georges Belmont, rédacteur en chef de Marie Claire. Alors encore mariée avec Arthur Miller, mais en pleine love affair avec son partenaire Yves Montand, Marilyn, que l'on décrit habituellement comme stupide, s'exprime ici pour la seule et unique fois avec sincérité sur son parcours cruel d'enfant abandonné et avec une grande intelligence sur son métier, ses qualités et ses défauts d'actrice. En 1960, à peine achevé le tournage du Q-Corps, elle va s'envoler vers le désert du Nevada pour jouer, sous la direction de John Huston, le rôle de Rosalyn dans Les Misfits, aux côtés de Clark Gable, Montgomery Clift et Eli Wallach. C'est son mari, Arthur Miller, qui a écrit pour elle le scénario comme un ultime cadeau alors que leur mariage se délite. Échec commercial, Les Misfits est un film culte, foutraque et crépusculaire, réalisé en noir et blanc, parabole de la fin du rêve américain, et dernier tourné par les trois plus grandes stars de Hollywood. Le dessinateur Luz, qui voit lui aussi la vie en noir et blanc, est fasciné depuis longtemps par cette histoire et nous offre aujourd'hui un superbe album, Hollywood Menteur, publié chez Futuropolis, dans lequel enfin revit une Marilyn très en colère. Bonsoir Luz.
Bonsoir.
C'est étonnant d'être fasciné par ce film-là, spécialement Les Misfits, qui, avouons-le, bon, n'est pas un très bon film.
Non.
Mais c'est un film derrière lequel le spectateur se projette et voit les histoires de chacun des trois grands acteurs qui vivent un peu leur dernier moment de gloire. Clark Gable va mourir très vite, Marilyn 2 ans après, Montgomery Clift est déjà complètement déglingué et il terminera en 65 sa carrière et sa vie. Est-ce que c'est aussi pour cela, pour ce que ce film dit des acteurs et de Hollywood, qu'il vous a tellement marqué lorsque vous l'avez vu en 2014, je crois?
Oui,
pour la première fois, c'était long.
2014, oui, c'était il y a très longtemps avant de réussir à faire quelque chose de cette passion ou cette obsession. Je crois que quand je l'ai vu dans un cinéma, parce que c'est aussi
il faut voir les films au cinéma.
Très important, il faut voir les films à la fois dans un confort, dans un aussi peut-être un peu surélevé, parce que quand on est dans un fauteuil de cinéma, dans les bons cinémas, les vieux cinémas au Champollion par exemple à Paris, on est en presque en lévitation devant l'image.
Ouais, c'est ce que disait Godard, hein, au cinéma on lève les yeux, à la télé on les baisse.
Exactement, exactement. Et je crois que moi je l'ai vu avec mon épouse à l'époque. Qui est toujours mon épouse actuellement. J'ai vu les personnes derrière les personnages. C'est ce qui m'a frappé. C'est ce qui m'a intrigué. C'est évidemment quelle était la personnalité de Marilyn à ce moment-là, au moment où elle était en train de faire ce film, avec cette espèce de grande ambiguïté où Arthur Miller écrit un film sur une femme désabusée et on montre une femme désabusée à l'écran et elle donne l'impression d'être elle-même une femme désabusée. Elles sont mariage. S'effondre, donc il est en déliquescence, elle est probablement désabusée par le mariage, elle s'intéresse à... Elle est en pleine période psychanalytique, donc elle réfléchit beaucoup sur elle-même, Et on est aussi dans une période, pour Marilyn, et pas seulement pour Marilyn, dans cette période où les acteurs réfléchissent sur leur manière de travailler, d'être acteur, et ils passent par l'acteur studio, par une nouvelle façon de jouer. Celle qui a été inventée par Stanislavski et qui a été ensuite proposée, en tout cas aux États-Unis, par Lee Strasberg et sa femme Paula, qui est présente au tournage des Misfits et qui dit alors à Marilyn Monroe, qui lui dit jour après jour qu'il faut qu'elle puise en elle pour être la meilleure actrice du monde.
Mais d'ailleurs, ce rôle de Marilyn Monroe dans les Misfits, c'est un rôle très différent de ce qu'elle a joué avant, de ravissante idiote, en gros. Là, elle joue le rôle d'une femme fracassée, et c'est aussi, on imagine assez bien que c'est aussi le rôle des deux autres, de Clark Gable et de Montgomery Clift, qui sont des hommes fracassés, abîmés par leur vie, abîmés par le cinéma, et c'est en même temps la fin du Hollywood mythique, du Hollywood vendeur de rêves, et une arrivée, comme un accouchement un peu difficile, d'un Hollywood plus amer, plus dur, plus sombre. Ils viennent de sortir du McCarthyisme. Et c'est ce film, sans doute, la fascination qu'on éprouve en regardant les Misfits, c'est un peu ça aussi. Ce sont deux époques qui se cognent l'une contre l'autre.
Oui, on a l'impression que les acteurs, en tant qu'acteurs, sont eux-mêmes déjà en train de s'effondrer au même moment que le personnage, peut-être au même moment qu'un certain Hollywood, et au même moment que le film, puisque le film va s'effondrer, il va être un échec commercial évident, et on se dit peut-être que Houston a essayé d'être malin, d'utiliser, comme après il a utilisé dans d'autres films, comme il a utilisé Richard Burton, il a essayé d'utiliser les facettes un petit peu sombres de la réalité des acteurs, comme une matière, pour pouvoir en faire surgir des caractéristiques de personnages assez inédites, finalement, puisque ces acteurs d'Hollywood sont plus connus pour eux-mêmes que pour leurs personnages. Qui se souvient du prénom d'un personnage de Marilyn? Et il y a un petit côté amer dans ce film, c'est que on pense que on va avoir un Clark Gable différent. Il est un peu différent. Pendant la majorité du film, il est fracassé, il cherche son fils, il est ivre-mort, et il parle à son fils fantôme. Montgomery Clift a une scène dans une cabine téléphonique où il parle de son accident, où il parle de sa figure, de sa manière dont il a été défiguré, alors que c'est aussi sa vraie vie. Je pense que Arthur Miller et John Huston savaient ce qu'ils faisaient. Ils pensaient qu'ils allaient utiliser, montrer une autre image de chacun de ces acteurs, et pourtant, à la fin, tout rentre dans l'ordre. Marilyn, finalement, retourne dans le bras du cow-boy Clark Gable, qui finalement, l'image de ce cow-boy Clark Gable n'aura jamais été fissurée dans le film. On a cru qu'elle aurait été fissurée, finalement. Après, on retourne vers le soleil couchant, bras dessus, et Marilyn, dont on soupçonnait peut-être quelque chose de différent, pas forcément que fragile, parce qu'à un moment donné, elle se met en colère dans le film. Finalement, elle revient presque en future maman, puisqu'ils vont faire des enfants avec Clark Gable dans le film. En tout cas, c'est ce qu'on imagine. Et quelque part, moi, je crois que ça m'a rendu triste. Cette femme m'a rendu triste. Il fallait que je raconte le tournage pour peut-être pas forcément trouver une autre fin. On peut pas se substituer à des talents comme Miller ou John Huston, mais peut-être raconter qu'il y avait la possibilité, à l'intérieur de ce film, à l'intérieur des personnes devenues personnages, la possibilité d'une autre réalité.
Alors, Luce, c'est vrai, vous parlez de tous ces personnages, et Dieu sait s'il y en a de fascinants dans cette histoire, mais Marilyn reste quand même le pivot de votre livre, Hollywood Menteur. On va la réécouter toujours dans cette interview enregistrée par Georges Belmont en 1960 sur le tournage du film de Cukor. Et là, Marilyn parle justement de ce qu'elle recherche, c'est-à-dire sa rencontre avec Kazan qui a dénoué quelque chose, Kazan qui lui disait que son problème était justement qu'elle ne se faisait pas suffisamment confiance. On l'écoute.
One time a very wonderful director, Kazan, said I had no ambition, that was my problem, my trouble. But I would like very much to be a fine actress, a true actress, that's what I mean by fine, a real actress. I would like to be happy, but who's happy? I think trying to be happy is almost as difficult as trying to be a good actress. You have to work at both of them.
Et oui, on l'entend dire, il faut travailler pour être une bonne actrice, travailler pour être heureuse, et c'est pas plus facile l'un que l'autre. En tout cas, dans la postface très intéressante que fait Virginie Despentes à cet album, Luz, c'est d'ailleurs assez étonnant de voir des féministes s'intéresser aujourd'hui à cette figure de Marilyn qu'on a toujours présentée comme une nunuche bêta, quoi. Et là, elle parle de quelque chose qui, moi, m'est resté dans la tête. Elle dit, en fait, ce qui nous fascine chez Marilyn, c'est l'inconsolable comme en chacun de nous. Est-ce que, au fond, c'est ça aussi, vous qui avez traversé un certain nombre d'épreuves, Luz, on ne va pas les rappeler, est-ce que c'est cette fracture terrible qu'il y a en Marilyn qui vient de cette enfance abandonnée, de ses malheurs, de ses douleurs, de ses doutes? Est-ce que c'est cet inconsolable qui vous a fait ressentir une proximité avec cette actrice?
Oui, je pense. Inconsolable est aussi quelque chose qui était de comment on se fait sa propre image, finalement, comment on peut après ce que j'ai subi, mais aussi après la déferlante médiatique, la déferlante symbolique aussi qui nous est tombée dessus, on est devenu aussi des personnages vus d'une manière très différente. Je pense qu'il y a plein de gens qui ont vu parfois certains en moi un symbole, d'autres qui ont vu qui ont considéré que je n'étais pas suffisamment un héros puisque je partais de Charlie, par exemple. Et moi, j'ai eu beaucoup peur de cette chape de plomb symbolique dans laquelle on était en train de me faire entrer. Et je pense que le personnage de... le personnage que Marilyn est devenue, l'icône que Marilyn est devenue, comment elle n'a pas réussi à s'en réchapper. Comment finalement même le film le plus dramatique, le film qui était offert par son mari, le rôle parfait peut-être, le rôle qui allait changer la vision qu'on allait avoir d'elle, n'aura pas changé la vision qu'on aura eu d'elle, peut-être à cause de cette fin qui pour moi est tragique puisqu'elle revient finalement comme une femme docile et soumise. Alors que peut-être il y a la place pour imaginer une Marilyn Monroe qui n'était pas si docile, qui n'était pas sexuelle ou sexuée dans sa vie réelle, qui était peut-être quelqu'un de plutôt tenace, une personne peut-être courageuse, qui luttait non seulement contre une machinerie, contre Hollywood. À la fin de sa vie, elle voulait faire sa propre maison de production. Elle n'a pas eu le temps de le produire, mais elle avait tenté de réunir l'argent, cette maison de production avec Marlon Brando, la volonté de partir, de faire quelque chose avec ses propres moyens. Et il y avait aussi quelque chose qu'on oublie, c'est qu'il y avait aussi une maladie qui l'a frappée.
Qui explique beaucoup de ses absences, de ses douleurs, de sa mauvaise humeur, de ses retards légendaires. Elle avait une endométriose, donc elle avait sans arrêt mal.
Elle avait mal au ventre. Ouais. Et en plus, je pense que l'acteur, le trac, c'est quelque chose qui se situe aussi au même endroit. Ce mal de ventre, il était peut-être, je pense qu'elle a laissé croire que ce mal au ventre qu'elle avait, puisque évidemment une maladie liée à la sexualité, liée aussi à ce que l'on imagine, voilà, la reproduction, les hormones, ce n'était pas facile d'en parler à l'époque. Ce n'était pas très diagnostiqué. C'était un peu diagnostiqué, mais il fallait. Elle a fait des opérations, elle n'avait pas de traitement. Eh bien, elle laissait entendre que c'était juste sa manière d'appréhender son travail d'actrice, alors que c'était quelque chose peut-être de bien plus profond en elle.
On va la réécouter justement au micro de Georges Belmont. Elle parle de ses retards légendaires. Bon, évidemment, elle ne parle pas de sa maladie. Elle dit au fond qu'elle n'aime pas se presser et que dans le cinéma, c'est toujours les gens courent et c'est insupportable. On l'écoute.
I get up early in the morning. I jump into my clothes. Get my belongings together, get in the car, and I have a driver. He brings me to the studio.
Marilyn a l'habitude de se lever tôt, puis un chauffeur la conduit au studio où elle prend un petit déjeuner tandis qu'on apprête ses cheveux, son visage. Elle aime faire ça lentement, et si elle est parfois en retard, c'est qu'elle n'aime pas la vie et l'humanité moderne où l'on ne s'arrête jamais, où les gens sont des machines.
Then they comb out the hair later. And they put on the body makeup and then the clothes. I don't like to rush this process because I find if I rush, I'm very tired. By the time I have to do a scene, I'm all worn out from rushing through the hair and the makeup and the clothes. So I like to do it leisurely, like I like to dress when I go out in the evening. I love to dress leisurely. I like to soak in the tub. And leisurely, I like music. I think that we're rushing too much nowadays. That's why people get nervous. Well, I don't think I'm late all the time, but maybe it is because I can't go as fast as other people. You know, people that get in automobiles, they run into each other because they never stop. They're going like that. And I don't think that mankind... It's intended for them to go like that. They're not supposed to be like machines.
Et oui, on l'entend dire que, alors que tous les autres sont sans arrêt dans de se bouscule, elle fait l'éloge de la paresse contre les machines, contre les hommes-machines. C'est très étonnant. Cet entretien, il est très particulier. Et je trouve que cette Marilyn qu'on entend s'exprimer là, elle ressemble assez à la Marilyn que vous avez dessinée sans l'avoir rencontrée, Luz. Vous la rendez très sympathique. Même pas forcément belle, elle a plutôt grosses fesses, des grosses cuisses, elle fait pas très attention à elle, quand elle s'échappe pour aller boire des coups dans les bars, elle est franchement madame tout le monde. Et au fond, dans cet entretien, comme dans votre livre, on voit la Marilyn qui aurait pu être reconnue comme telle, avec une vraie personnalité.
Évidemment, on saura jamais qui était Marilyn à l'intérieur. On n'aura jamais pu percer le mystère de cette femme. Mais on peut essayer de percer le mystère de nos propres fantasmes aussi. Peut-être que on peut aussi se dire qu'on peut se réinventer une nouvelle Marilyn. C'est intéressant d'imaginer que, effectivement, des femmes féministes fortes, comme Despentes et d'autres personnes,
Madonna aussi,
bien sûr, ont une Marilyn en elles. Et une Marilyn qui est issue de l'ensemble de l'icône Marilyn, c'est-à-dire aussi qui est issue d'une femme du glamour aussi, d'une femme qui rigole, parce qu'on entend, c'est ça quelque chose, moi je trouve les moments les plus touchants dans cette interview, c'est quand quelque chose de grave arrive, il y a un petit éclat de rire, un petit souffle chez elle, on a l'impression que il y a une espèce de grande gravité, mais de toute façon à un moment donné il faut donner quelque chose qui rassure l'auditeur. Donc il faut donner un petit peu de glamour, un petit peu d'humour ou un petit peu de légèreté. Et peut-être il y a la place, au milieu de tous nos fantasmes, de chercher une Marilyn différente qui peut-être n'a pas que de la légèreté. Je pense que certaines femmes fortes qui ont vu en Marilyn quelque chose de différent, peut-être pas, qui l'ont pas forcément verbalisé, ont ressenti, et moi j'ai ressenti aussi, une femme peut-être vraiment, vraiment, courageuse, vraiment quelqu'un qui a lutté. Et c'est pour ça qu'elle est aussi peut-être pas un étendard, mais elle est portée dans le cœur de femmes qui luttent.
He's not so good in a crowd, but when you get him alone, you'd be surprised. Isn't much at a dance, but then when he takes you home, you'd be surprised. He doesn't look like much of a lover. Don't judge a book by its cover. He's got the face of an angel, but there's a devil in his eye. He's such a delicate thing, but when he starts in the squeeze, you'd be
surprise. He doesn't look very strong, but when you sit on his knee, you'd be surprised. At a party or at a ball, I've got to admit, he's nothing at all. But in a Morris chair, you'd be surprised. Doesn't look like much of a lover. Don't judge a book by its cover. 'Cause he's got the face of an angel, but there's a devil in his eye. He doesn't say very much, but when he starts in to speak, you'd be surprised. He's not so good at the start, but at the end of the week, you would be surprised. On a streetcar or in a train, you'd think he was born without any brain. But in a taxi cab, and when he starts to grab, said a taxi cab, you'd be surprised. This one's a real danger.
L'humeur vagabonde sur France Inter.
Well, I always have a secret feeling that I'm really a fake or something, or phony. You know how people feel about themselves. They have something secret they feel about themselves. I always feel that. I know my teacher says, why do you feel that about yourself? And then he started to say, but you're a human being. I said, yes, I am. I said, but I feel like I have to be more. He says, no. He says, you start with yourself, Lee Strasberg. I think probably he changed my life more than any other human being that I've met, including everyone. Because when I started to work with him, I would sort of assume something. And he says, what are you doing? I said, well, I have to get into the part. He says, no, but you're a human being, so you start with yourself. I said, but with me? He said, yes, with you. So, in a way, if you can concentrate correctly, I don't mean deep thinking where you know, pounding your skull, but if you can just concentrate simply, that's what I mean about being easy.
Donc, en répondant aux questions de Georges Belmont, Marine fait l'éloge de son professeur Lee Strasberg. Elle dit, au fond, quand je suis arrivée dans cette école, je lui disais, il faut que je rentre dans mon personnage. Et il disait, mais non, pas du tout. Tu es un être humain, donc tu dois rentrer en toi-même et tu dois jouer toi-même. Il faut que tu partes de toi-même. Et elle n'en revenait pas. Elle disait, mais de moi-même, ça n'a pas d'intérêt. Et c'est Strasberg qui lui a appris à aller chercher en elle... cette Roselyne des Miss Suisse aussi, et c'est ce moment que vous avez choisi de dessiner d'ailleurs, parce qu'en fait, ce livre, il vient de votre envie de dessiner Marilyn au moment, enfin de dessiner Roselyne dans le film au moment où elle pète les plombs, où elle fait sa crise de colère à la fin contre ces menteurs qui lui font chasser ces Mustangs magnifiques pour en faire de la pâté pour chien.
Quand j'ai vu cette scène très très belle, mais très aussi tragique pour quelqu'un qui aime Marilyn, c'est une scène où elle est dans le désert, elle est perdue, c'est juste un tout petit point. Elle hurle dans le désert Et on entend la voix de Roselyne, de Marilyn, donc, qui hurle très fort. C'est d'une violence inouïe. Alors que c'est légendaire. On avait du mal à l'entendre sur les tournages. D'ailleurs, là, là, elle susurre un petit peu. Elle est presque, elle a peur de déranger chaque mot. On sent là, avec la crainte de déranger l'auditeur. Et dans ce film, à un moment donné, dans le désert, elle hurle, elle pète un câble. Et, puisque justement elle travaillait sur elle-même et que quelque part quelque chose d'elle était sorti forcément pour composer ce rôle. Je crois que le seul moment dans toute sa filmographie où elle est en colère, c'est à cet endroit-là. Donc le seul moment où elle a eu l'occasion de pouvoir sortir tout ce qu'elle avait en elle, toute la colère, ou même plus que la colère, toute la tension qu'elle avait en elle, ça a été à ce moment-là.
Et en plus, vous avez une explication, Luz, sur cette scène et sur cette vraie colère qu'elle exprime à ce moment-là. C'est au-delà du personnage de Roselyne, furieuse de voir ces hommes attraper ces magnifiques chevaux. Elle, en fait, vous dites... Il faut s'imaginer ce qu'elle voyait quand elle a piqué sa crise. En fait, elle voyait son directeur, le producteur, elle voyait toute la machinerie d'Hollywood qui la filmait. Et au fond, cette colère, elle l'adressait à Hollywood, d'où
le titre de votre livre. Elle l'adressait à Hollywood. Et puis, si on imagine ce qu'elle voyait, elle voyait effectivement Arthur Miller, un homme. Elle voyait John Huston, un homme. Que des hommes. Sauf Angela qui était la script, qui était une des rares femmes sur le plateau, et Paula Strasberg aussi. Et donc, forcément, elle s'est adressée. Moi, j'imaginais qu'elle pouvait s'adresser effectivement à ce monde d'hommes, qui était Hollywood, ce monde d'hommes qui l'a façonné pour être une icône docile, pour être une icône gentille, c'est le premier mot qu'on entend d'elle d'ailleurs dans un film, c'est pas d'elle, sur elle, c'est dans l'autre film de Huston, il y a un personnage qui dit regardez comme elle est gentille, et le dernier film de Huston, son dernier film aurait pu on lui laisse la place à la parole, mais on lui laisse pas la place à l'image. On lui laisse pas la place à cette colère.
En même temps, dans la mesure où c'est Arthur Miller qui, quand même, la regardait avec plus d'intelligence que la plupart des hommes qui sont passés dans sa vie, il a écrit ses répliques de films pour elle. On va en écouter une. C'est avec Clark Gable et qui lui dit une chose que Miller ressentait évidemment pour Marilyn. Clark Gable, Gay dans le film, lui dit « Tu es la fille la plus triste que j'ai jamais rencontrée. »
« You're a real beautiful woman. It's almost kind of an honor sitting next to you. You just shine in my eyes. That's my true feeling, Rosalind. What makes you so sad? I think you're the saddest girl I ever met. »
First man ever said that. I'm usually told how happy I am.
Well, that's because you make a man feel happy.
I don't feel that way about you, Kay.
Well, don't get discouraged, girl. You might. Look, why don't you try it out here for a while? See what happens. You know, sometimes when a person don't know what to do, the best thing is to just stand still. I'll guarantee you'll have something out here you wouldn't find on every corner. I may not amount to much in some ways, but I am a good friend.
Thanks.
Luz, en fait, Arthur Miller l'avait bien compris quand il fait dire au personnage de Clark Gable, Gay, tu es la fille la plus triste que j'ai jamais rencontrée. Elle répond, bah, c'est drôle parce que tout le monde me dit toujours que j'ai l'air heureuse. Et il répond, parce que tu rends les hommes heureux, au fond.
Oui, c'est effectivement presque un constat de la part d'Arthur Miller. Le seul truc qui rend les choses aussi tristes dans cet échange avec Clark Gable, c'est que on se rend compte à travers justement l'interview que vous avez diffusée que son obsession est d'être une bonne actrice et pas forcément d'être elle-même, sortir d'elle-même. Or, Miller a peut-être utilisé la personne de Marilyn pour en faire un personnage. Et je parle justement dans ce livre peut-être que quelque part ce n'était pas vraiment ce qu'elle voulait. Elle voulait un rôle dramatique, elle voulait un rôle qui la sorte aussi d'elle-même. Elle voulait un rôle qui brise la glace, qui brise l'image qu'elle avait de cette, effectivement, de cette femme, fille, un peu accorte, un peu, peut-être, sotte, et quelque chose qui tranche par rapport à ce qu'elle était. Il y a plusieurs rôles qui lui ont échappé, dont celui de la femme hystérique dans le prochain film de Houston, le film qui allait arriver après, Passion secrète, Freud, sur Freud. Anna Freud n'a pas voulu qu'elle ait le rôle. Et elle l'a su aussi pendant le tournage de Mission. J'ai pas eu la place de l'écrire. Je pense que il est possible qu'elle ait été, sa colère qui sort aussi dans ce film, elle sort aussi à un moment donné où elle se rend compte qu'on lui offre un film tragique, mais ce n'est pas ce qui l'intéresse le plus, c'est de raconter la tragédie humaine et pas forcément sa propre tragédie.
Oui, or là, comme c'est son mari qui a écrit toutes les répliques, effectivement, on entend ce qu'il n'a peut-être pas osé dire en face à Marilyn et qui le fait dire par ses partenaires, notamment par Montgomery Clift, puisqu'il y a cette scène très touchante entre Montgomery Clift et Marilyn Monroe, deux personnages qui se ressemblent dans le film, qui se ressemblent dans la vie, deux fracassés de la vie. Et Montgomery Clift lui dit dans cette scène qu'elle a des yeux d'une naïveté, d'une confiance incroyable.
Don't say anything, just be still.
Gary's a pretty great fellow, isn't he?
Yes.
You know, I can't figure you floating around out here like this. You belong to Gay?
I don't know where I belong.
I don't like to see the way they grind up women out here. Although I guess a lot of them don't mind, do they?
Some do.
Don't you let them grind you up here. How come you got such trust in your eyes?
I do.
Like you was just born.
Oh, no.
Was you really crying for me before?
You were hurt. Didn't anyone ever cry for you before?
No, no stranger.
Luz, est-ce que c'est dans votre livre que j'ai lu cette réplique dans la bouche d'un des acteurs? Nous sommes tous en train de mourir?
C'est possible, oui. Oui, c'est vraiment
ce qu'on ressent à la lecture de votre livre et après avoir revu les Misfits, on se dit, mais au fond, ce sont tous des morts qui sont là en train de parler de ce dernier moment avant le dernier soupir. C'est vraiment c'est un film très noir, très morbide au fond.
C'est morbide, mais en même temps, le dernier soupir, ça reste un soupir. Il y a de la vie dans cet échange avec Montgomery Clift qui est probablement l'échange le plus poignant. John Huston voulait qu'il crie, chacun qu'il se crie dessus. Ils n'ont pas réussi parce que ils avaient un échange, ils avaient un regard. Le regard sur cette scène de l'un envers l'autre, de Monty envers Marilyn et inversement, est absolument incroyable, d'une grande douceur. Et ils n'ont pas réussi. Ils ont fait la scène vraiment, vraiment beaucoup de fois. C'est la scène qui a été refaite. Et je l'ai regardée tellement, tellement, tellement souvent. Et à un moment donné, on voit une mouche. Quand une mouche qui passe devant l'écran. Et effectivement, après j'ai enquêté, je me suis rendu compte que effectivement ils étaient derrière un bar avec beaucoup de bouteilles de bière et donc forcément il y avait des mouches partout.
Il y avait un peu des insectes.
Il y avait un peu des insectes, donc il fallait se battre contre ce qui arrivait là. Mais qu'est-ce que c'est qu'une mouche au milieu d'une scène? C'est la vie qui apparaît, c'est une réalité qui apparaît. Peut-être que c'est une des plus belles scènes du film, parce qu'à un moment donné, il y a une réalité qui est extérieure peut-être au film, et une réalité qui est intérieure au personnage qui se révèle.
Il faut dire aussi que pour ces trois acteurs monstrueux, au vrai sens du mot, monstres sacrés d'Hollywood, ils étaient tous en train de lutter contre des addictions terrifiantes. Clark Gable était un alcoolique épouvantable. Ne parlons pas de John Huston qui a passé ce tournage ivre-mort d'un bout à l'autre. Marilyn, c'était les calmants, les excitants. Et Monty Clift, c'était et la vodka et le Nambutal. Donc c'est quand même assez étonnant ensuite de voir un film qui, malgré tout, malgré ses faiblesses, tient la route et nous raconte des choses Peut-être même à cause de ça, on en revient où nous sommes des survivants, nous sommes des morts en sursis, parce que en plus dans les jours et les mois qui viennent, ils vont tous y passer.
Ils vont tous y passer, et c'est un peu le film de la survivance, en tout cas pour certains, du retour pour Clark Gable qui n'était plus du tout un cow-boy depuis quelques temps, et qui faisait aussi des films pas très bons.
Et qui a refusé de se faire doubler pour ces cascades terribles quand le cheval le traîne sur des mètres et des mètres. Après l'avoir attrapé au lasso, c'est vraiment il y avait des doublures, c'était prévu.
Il y a eu des doublures. Il a été, et en même temps, Clark Gable voulait se faire croire qu'il était encore ce cow-boy-là, alors qu'il faisait que des films romantiques depuis quelques années. Il voulait montrer qu'il était encore ce que Hollywood avait réussi à fabriquer de lui. Il voulait ne pas changer. C'est intéressant dans un livre qui s'appelle Le Fragment. Il y a quelques phrases de Marilyn Monroe et elle parle des désaxés à un moment donné. Je veux bien lire juste cette phrase. Elle dit oui, les hommes veulent atteindre la lune, mais personne ne semble s'intéresser au cœur humain qui bat. On peut renoncer à changer quand bien même on le pourrait. À propos, c'était le thème original des désaxés, mais personne ne s'en est rendu compte.
Ah oui, c'est pas sot du tout.
Non, c'est pas sot du tout.
Oui, ce sont des personnages qui espèrent changer et qui se rendent compte qu'ils n'y arrivent pas.
Qu'ils n'y arrivent pas et finalement qui baissent peut-être les bras et finalement ils ont la possibilité peut-être de changer et peut-être, je pense que c'est aussi la fin de mon livre où je pense que Marilyn a pu faire surgir son cri. Mais finalement, elle accepte qu'elle continuera dans cette Hollywood qui va la broyer encore quelques années. Elle n'arrivera pas jusqu'au bout, mais voilà, peut-être que quelque part, elle savait que c'en était fini de la magie du cinéma pour elle. C'est l'intuition que j'ai.
On vient de comprendre qu'il y a beaucoup de Marilyn en vous et non pas l'inverse.
C'est l'inverse, ce serait difficile, mais il y a beaucoup de Marilyn en moi, oui. Mais il y a aussi, je pense qu'il y a de la fissure, il y a de la fissure en moi, il y avait de la fissure déjà avant. Je pense qu'en moi, il y a aussi un peu de colère, et puis j'ai peut-être besoin de dessiner la colère des autres pour pouvoir se faire surgir la mienne, peut-être.
En tout cas, c'est un album absolument formidable. Pas seulement pour les dessins qui sont très frappants, mais aussi pour ce qui est dit dans les bulles. Vous avez fait une belle enquête, Luz, vous avez bien dessiné, vous avez bien travaillé. Et on peut aller voir alors en plus grand format vos dessins qui sont exposés jusqu'au 4 mai à la galerie Huberti et Brenne. Et j'avais même marqué l'adresse, si je la retrouve, mais vous devez la connaître, c'est rue Saint-Honoré, c'est
ça ? Rue Saint-Honoré, oui.
Rue Saint-Honoré à Paris, voilà. Merci, c'était un plaisir de vous voir.
Merci, Luz.
Continuez à aller bien et à dessiner des choses formidables.
Tant qu'il y a des lecteurs, des gens pour vous lire, on va bien.
Voilà, c'est bien. Et c'est chez Futuropolis, bien sûr.